Bonjour, c'est Nadia sur Neptune FM. Bienvenue dans notre chronique hebdomadaire littéraire à deux voix. La semaine dernière, nous avons partagé un temps de lecture avec Elsa. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Et Romane.
Bonjour.
Bonjour Romane. C'était donc un roman jeunesse intitulé Les Willoughby, écrit par Loïs Laurie et traduit par l'anglais Francis Kerlin, dans la collection 9 aux éditions de l'École des loisirs. Nous allons continuer ce livre avec les filles aujourd'hui, avec le deuxième chapitre. Mais avant de continuer, je vais vous faire un rapide résumé. Bon, vous vous souvenez que c'est une pépite d'humour grinçant, à lire au second degré. Donc, il faudra déjà un esprit bien développé, critique pour en rire. Donc, pas avant 9 ans, je pense. Et voilà, le premier chapitre s'ouvre sur la présentation d'une famille, les Willoughby, peu ordinaires, même carrément, en fait, ignobles, plus ignobles les uns que les autres, des sans-cœur. Ils font par exemple la découverte d'un bébé abandonné sur le palier et vont s'empresser de s'en débarrasser. Mais attention, ils ne perdent pas le nord car ils ajouteront un petit mot, vous souvenez, pour demander une récompense. Donc on termine le premier chapitre sur ce petit mot et ce bébé abandonné avant de commencer le second chapitre. Une conspiration parentale. Monsieur et Madame Willoughby étaient assis devant la cheminée après le dîner. Il lisait un journal et elle tricotait quelque chose en laine beige. Les quatre enfants, en pyjama de flanelle, entrèrent dans la pièce. « Je fais un pull pour le chat », leur dit Madame Willoughby en montrant le tricot, où l'on voyait une petite manche fine déjà formée.
« J'aurais préféré que tu tisses un deuxième pull pour moi, et B, dit Barnaby A. C'est difficile de se partager un pull à deux. »«
Je vous l'ai expliqué 100 fois », dit leur mère avec exaspération.
A, tu le mets le lundi, le mercredi et le vendredi. B, tu l'as le mardi, le jeudi et le samedi. Le dimanche, bah, vous n'avez qu'à vous battre pour savoir qui l'aura. Elle se tourna vers son mari.
C'est dégoûtant, dit-elle. De nos jours, les enfants veulent tous avoir leur propre pull.
Elle tricota encore quelques mailles avec application.
Les enfants, dit Monsieur Willoughby sur un ton énervé en reposant son journal, vous vouliez quelque chose ?
On espérait que tu nous lirais une histoire, dit Tim. Dans les livres, les parents lisent toujours des histoires à leurs enfants avant de les envoyer au lit.
Je crois que c'est la mère qui fait ça, d'habitude, dit Monsieur Willoughby en se tournant vers sa femme.
Je suis occupée, dit Madame Willoughby. Le chat a besoin d'un pull. Et vite, elle tricota une autre maille. Monsieur Willoughby fit les gros yeux. Passez-moi un livre, dit-il. Tom alla devant la bibliothèque et passa en revue les volumes alignés sur l'étagère. « Dépêche-toi, dit son père. Je suis en train de lire un article sur les taux d'intérêt. » Aussitôt, Tim lui tendit un livre de contes de fées. Son père l'ouvrit au milieu pendant que les enfants s'installaient en demi-cercle à ses pieds. Il ressemblait à une illustration sur une carte de Noël. « Joyeux Noël à tous !» murmura Barnaby A. Mais Tim lui donna un coup de coude. Monsieur Willoughby se mit à lire à haute voix. Au cœur d'une grande forêt, un pauvre bûcheron vivait avec sa femme et ses deux enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. Ils avaient à peine de quoi les nourrir. Bientôt, une grande famine régna sur le pays. Il ne fut plus capable de leur procurer le pain quotidien. Une nuit, réfléchissant dans son lit,
angoissé, ne pouvant fermer l'œil, il gémit et dit à sa femme, « Qu'allons-nous devenir ? Comment ferons-nous pour nourrir nos pauvres enfants alors que nous n'avons plus rien pour nous-mêmes ? » La femme répondit, « J'ai une idée. Demain matin, de bonne heure, nous emmènerons les enfants très loin dans la forêt. Nous allumerons un feu pour eux, nous leur donnerons à chacun un dernier morceau de pain, puis nous partirons travailler et nous les abandonnerons. Ils ne retrouveront pas leur chemin, pas le chemin de la maison, et nous serons débarrassés d'eux. » Les lèvres de Jane tremblèrent et elle poussa un petit sanglot. Barnaby A et Barnaby B eurent l'air très inquiet. Tim fronça les sourcils. « Fini !» dit leur père en refermant le livre d'un coup sec. « Au lit !» En silence, même si Jane reniflait encore, les enfants montèrent dans leur chambre à toute vitesse. Madame Willoughby se remit à son tricot et commença un nouveau rang. Monsieur Willoughby reprit son journal, mais au lieu de lire, il regarda dans le vide un moment, puis il dit
« Chérie ?»« Oui, chérie. J'ai une question à te poser. » Il se mordit à la lèvre. Oui, chérie. Tu aimes nos enfants ? Oh non, dit Madame Willoughby, en coupant un petit fil qui rebiquait avec ses ciseaux plaqués or. Je ne les ai jamais aimés, surtout le grand, comment s'appelle-t-il déjà ? Timothy Anthony Malachi Willoughby. Oui, lui, c'est lui que j'aime le moins. Mais les autres sont épouvantables aussi. La fille pleurniche tout le temps et il y a 2 jours, elle a essayé de me faire adopter un ignoble bébé. Son mari frissonna. Et il y a les deux que je n'arrive jamais à différencier, continua Madame Willoughby. Ceux avec le pull. Les jumeaux ? Oui, eux. Pourquoi se ressemblent-ils autant ? Ça perturbe les gens et ce n'est pas bien.
J'ai un plan, dit Monsieur Willoughby en posant son journal. Il se caressa un sourcil d'un air satisfait. C'est complètement abject. Magnifique ! Un plan pourquoi ? Pour nous débarrasser des enfants. Oh zut, il faudra les emmener dans une forêt sombre. Je n'ai pas les bonnes chaussures pour ça. Non, non, un plan bien meilleur, plus professionnel. Ah, tant mieux, je t'écoute, répondit-elle avec un sourire méchant, en sautant méticuleusement quelques mailles afin de laisser un trou pour la queue du chat. À la fin de cette lecture, les filles, quelles sont vos impressions ?
Bah, moi je trouve ça complètement absurde parce que, encore une fois, les enfants veulent se débarrasser des parents, les parents veulent se débarrasser des enfants. Et on peut penser que le conte de Hansel et Gretel a inspiré les parents.
Merci Romane. Et toi Elsa alors ?
Bah oui, je repense qu'à dire Romane, en fait le père est allé lire une histoire aux enfants et quand il est revenu, il venait de lire une histoire d'Hansel et Gretel, des parents qui voulaient se débarrasser des enfants en les laissant dans la forêt. Et le père revient et dit à sa femme... qu'il a une idée pour se débarrasser des enfants.
Mais évidemment, donc, c'est bien sûr. Il a lu le plan qu'ils allaient mettre à exécution. Et puis en fait, il n'y a rien de normal. Est-ce que c'est normal qu'elle tricote un pull pour son chat ? Elle pense d'abord à son chat.
Avant ses enfants.
Avant ses enfants.
Ou par exemple, si elle a dit « Oh zut, s'il faut aller en forêt sombre, ben moi, je n'ai pas les bonnes chaussures pour ça. »
C'est ça, c'est complètement décalé.
Oui, et puis elle veut faire un pull pour son chat, mais elle ne veut pas en faire 2 pour ses fils.
Ah bah non, surtout pas, elle ne les aime pas, elle n'aime pas ses enfants. C'est quand même, c'est très très, c'est à l'envers des codes en fait du conte traditionnel, où généralement les parents
ils sont des aimants, enfants tout mignons.
Ou alors c'est des orphelins qui ont perdu leurs parents, mais là on est dans quelque chose de complètement, complètement loufoque, et d'ailleurs même la mère ne se rappelle plus du prénom de ses enfants. Donc là, on pousse le bouchon. Un peu loin. Donc c'est vraiment de l'humour noir et j'espère que ça donnera envie aux auditeurs de lire la suite de ce conte qui va de loufoquerie en loufoquerie et qui est très 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 drôle à lire. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va pouvoir se passer par la suite ?
Bah, les enfants vont vouloir comme les parents se débarrasser des parents.
Bien sûr, en toute non-logique.
Les enfants vont avoir une idée pour se débarrasser des parents. Ils vont réussir à ce que les parents ne réussissent pas à se débarrasser d'eux.
Ouais. Genre, bah, oui, exactement. Oui. Et à mon avis, ils n'auront pas du tout peur de se retrouver seuls ou d'être
abandonnés. Pas du tout, ils vont être contents vu qu'ils ne seront plus avec leurs parents.
Ouf. Bon, alors ça promet une belle lecture.
Ah, et le chat ?
Et le chat, il va devenir quoi ?
Bonne question. On vous laisse donc lire et découvrir la suite de cette histoire. Et puis, on va peut-être écouter Romane maintenant sur sa lecture de l'été.
Je vais vous parler de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'est une série de 4 tomes donc qui représente les 4 saisons. Automne, hiver, printemps, été.
Que tu as toutes lues ?
Non, j'ai que commencé l'automne. C'est pour ça que j'ai parlé du premier tome, Un automne pour te pardonner. Je pense qu'il est plus adapté à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans. Je le précise parce que c'est important.
Parce qu'il est peut-être difficile de lecture ou parce qu'il y a des scènes un peu sensibles ?
Peut-être des scènes et des sujets qui sont le sujet du harcèlement, en partie.
Sujet d'actualité, il peut aussi conforter une personne qui serait confrontée au harcèlement ?
Oui, totalement. Oui.
Tu veux nous faire un petit résumé alors ?
Oui, bien sûr. Ouais. C'est l'histoire de Camélia O'Brien, brillante étudiante à Édimbourg et avocate en devenir. Elle va être chargée d'enquêter sur Rory Cavendish, qui a été assassiné. Et il se trouve que Rory Cavendish est son ancien bourreau, donc son ancien harceleur du lycée. Donc, le présumé accusé du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, amant et meilleur ami de Rory. Lou avait participé à harceler Camélia. Enfin, c'est ce qu'elle croit.
et donc il est prêt à tout pour se faire pardonner et que Camélia lui redonne sa liberté car elle va devenir l'avocate de Lou McAllister. Jusqu'au jour où Camélia reçoit une lettre lui annonçant qu'elle était conviée à la lecture du testament de Rory, elle sait qu'il lui a légué quelque chose. Il faut savoir que Rory est un personnage très imbu de lui-même, qui aime jouer avec les autres et leurs sentiments. Donc ils se disent comme si c'était des jouets, sauf Lou qui est à part pour Rory. Dans cette enquête mêlée d'amour et de rebondissements, Camélia et Lou arriveront-ils à s'en sortir ?
Alors s'il y a 4 saisons, c'est que ça promet d'être long en rebondissements.
Alors non, c'est un gros roman et c'est les 3 meilleurs amis de Camélia qui vont être les 3 autres sujets de livre. Donc hiver, ça va être une de ses amies. Pareil pour l'été, pareil pour le printemps.
Et alors toi, qu'est-ce qui t'a plu dans la lecture, en tout cas de ce premier tome ?
Je trouve qu'il est très bien écrit parce que en fait, à chaque chapitre, le narrateur change. Parfois c'est Camélia, parfois c'est Lou et parfois c'est Rory. Donc avant le meurtre, il y a des moments où du coup, à chaque fois, on en sait un peu plus. Et vraiment, ils ont attendu la fin pour qu'il y ait un gros rebondissement. Je ne dirai rien de plus.
Non. Du coup, ça donne envie de lire. Ouais, comme des flashbacks un petit peu.
Rory parle du passé. Du coup, à chaque niveau du livre, on en sait un peu plus. Et ce qui est bien, ce que j'ai trouvé, c'est que donc Morgane Moncomble, à chaque début de livre, elle met une playlist qui pourrait correspondre à son thème et à son livre.
Comme dans un film, en fait.
Du coup, c'est génial. T'as une playlist et il y a une petite préface où elle pose vraiment le contexte. Donc, elle raconte les histoires de lycée de Camélia avant de commencer au présent où son présent, c'est d'être étudiante.
Est-ce que ça t'a aidé, justement, d'avoir le passé un peu de lycéenne pour t'imaginer, en fait, le contexte,
la scène ? Ouais, c'est important parce qu'il y a des informations qu'on n'aurait pas eues si elle n'avait pas parlé des années de lycée.
Et peut-être que ça permet d'entrer dans l'histoire à votre âge, alors que si on avait parlé directement d'une vie d'adulte, peut-être que ça vous aurait moins...
On se sent plus proche de la personnage principale.
C'est ça. Bon, bah écoute, ça a l'air super, ça donne envie de lire. Elsa, t'auras envie d'ouvrir le livre ?
Ah ouais, ça donne super envie, oui.
Et ben merci beaucoup les filles pour votre lecture et puis pour vos conseils lecture.
Un été pour te retrouver est sorti en juillet 2024, ou enfin... Très récemment, en tout cas.
Bon, bah, je vous souhaite une bonne continuation. En tout cas, j'espère que vos rentrées se sont bien passées. Mais je pense que oui, dans vos classes respectives. Et que vous allez faire plein de belles lectures. Je vous remercie beaucoup. On se quitte sur ce beau roman, Romagne. Et on essaiera de mettre donc toutes les indications sur le site de Neptune. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire sur Neptune.